Bonjour à tous, parlons-en. 10 minutes sans tabou où l'on peut tout se dire. Elodie Benmadi, thérapeute, je suis ravie comme toujours de partager avec vous cette chronique qui vous est dédiée. Comme vous le savez, cette chronique aborde surtout les sujets tabous sur l'enfance. Aujourd'hui, j'ai fait le choix d'un sujet et pas des moindres, au vu de tout ce que l'on peut voir et entendre médiatiquement en ce moment. Je voudrais parler de l'aide sociale à l'enfance, appelée plus communément ASE, qui résonne aujourd'hui avec le mot scandale. On y parle de peu de moyens, de gros problèmes de dysfonctionnement et de conséquences dramatiques. Vous entendrez beaucoup parler budget, mais où est la prise en charge de l'humain ? Suicide des enfants, maltraitance, prostitution, réseau pédocriminel, enfants vivant à la rue, où partent les 9 milliards d'euros de budget alloués à l'ASE ? Enfants de 0 à 18 ans, 2% sont confiés au département. Ça représente 400 000 enfants concernés en France, qui subiront pour grand nombre d'entre eux de la maltraitance pour certains, voire même aller jusqu'au suicide pour d'autres. Oui, les enfants en France sont les grands oubliés de la société. Ce n'est pas sans avoir fait des recherches et regardé les documentaires, si nombreux soient-ils en ce moment, que je vous propose cet échange et vous relate la réalité accablante et l'urgence de la situation. L'ASE, c'est quoi ? L'aide sociale à l'enfance. Anciennement, on parlait de la DAS, la Direction départementale de l'action sanitaire et sociale. Quel changement peut-on constater depuis la création de l'ASE ? La DAS avait pour mission de protéger les enfants dont les parents étaient en difficulté pour assumer leur rôle. C'est dans les années 80 que la DAS va être remplacée par l'aide sociale à l'enfance et la PJJ, protection judiciaire de la jeunesse. Ce dont il faut prendre conscience, c'est que cette grande institution est un service de département placé sous l'autorité du président du conseil départemental et dont la mission essentielle et de venir en aide aux enfants et à leurs familles par des actions de prévention, protéger des enfants des adolescents en danger ou risquant de l'être. C'est un soutien des familles et un accompagnement des parents. Alors sur le papier, voilà comment c'est présenté, mais au cœur de l'action, il en est tout autre. Les enfants qui requièrent au service de l'aide sociale à l'enfant sont au nombre d'environ 400 000, dont 227 000 enfants concernés sont placés. Les spécialistes qui consacrent leur énergie au mieux-être et au développement de l'aide sociale à l'enfance distinguent trois cibles familiales. La première est le couple qui se sépare de façon conflictuelle. La deuxième est souvent une situation où la femme est battue. Elle entend alors, et je cite, « Vous n'avez pas protégé vos enfants de scènes de violence, donc l'ASE décide de protéger vos enfants. » Une femme sur deux violentée demande de l'aide et à la place, elle reçoit un placement d'enfant au lieu d'un accompagnement. Le troisième cas sont souvent vus dans les familles où il y a la présence d'enfants malades ou d'enfants atteints d'autisme. Il y a un handicap et souvent ces situations amènent l'explosion du couple qui demande de l'aide. Il est étrange de constater que la demande d'aide entraîne dans bien souvent des cas le placement de l'enfant et le non-soutien et l'accompagnement du parent qui le demande. Les résultats sont formels. Selon les professionnels, sur 100% des placements, seuls 20% s'expliquent et ont des raisons valables. Il faut aussi savoir que 90% de ces enfants placés ne reviendront jamais dans leur famille. Ils seront donc placés jusqu'à leur majorité de 18 ans. Quel effet sur tous ces enfants coupés de rupture familiale ? Un enfant placé, c'est un enfant à qui on impose une rupture globale de toute la famille. Souvent, il est déscolarisé. Il n'a plus accès à ses loisirs, parfois même aux soins. Le travail de l'éducateur n'étant pas sur un bien-être et un accompagnement familial, sur la réinsertion en devenir. Non, le travail est souvent perçu comme une résilience d'acceptation, sa situation actuelle pour l'enfant. Tu es placé, il va falloir faire avec. À savoir que la visite de son parent est environ une fois par mois surveillée par une tierce personne et que ce premier rendez-vous est rarement possible avant les premiers mois, voire 6 premiers mois même après le placement. Surtout pas de fausses idées s'il vous plaît, il n'y a pas de classe ou de sous-classe sociale pour le placement d'enfants. Il ne concerne pas que des familles ayant atteint le seuil de pauvreté. C'est une fausse idée de se dire que l'ASE s'attaque aux familles pauvres. Aujourd'hui, le constat est douloureux. Ce principe de précaution incluant la protection et la prévention des enfants deviendrait-il un business ? Comment ça fonctionne concrètement ? Les fonds sont débloqués de telle façon qu'une fois par mois, un paiement est généré par le département de l'ASE. Lorsqu'on parle d'argent, il y a difficilement de place à l'humain. Le département reçoit un budget annuel, à savoir différent pour chaque département. On rentre alors dans un système d'administration financière. Comment ne pas soupçonner là une possibilité de business financier sous couvert du département au détriment de la sécurité des enfants? Et que deviennent nos enfants placés après leur majorité? Qu'ont-ils vécu? 70% des sans-domicile fixes en France viennent de placement. La vie en famille d'accueil n'est pas toujours rose pour eux. Il suffit de regarder, de lire la presse depuis plusieurs années, où l'on voit que dans des familles d'accueil, les viols se perpétuent. Pourquoi est-il si facile de violer un enfant en famille d'accueil? Parce qu'il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de poursuite, donc il n'y a pas de sanction. Et sans preuve, l'enfant ne peut pas agir seul. L'aide sociale à l'enfance va accompagner l'enfant à la police, peut-être, mais plusieurs semaines après, où il n'y aura plus de preuves, donc le classement sera sans suite. Il ne faut pas cacher que le département dépose rarement des plaintes. Ce sont des procès à huis clos. Et le huis clos, dans ces cas-là, est-ce qu'il protège vraiment l'enfant? Non, cela protège les services sociaux. Les audiences seraient trop monstrueuses, a dénoncé Maître Michel Hamas, avocat qui lutte contre le système défaillant du placement d'enfants. Il y constate de l'incompétence professionnelle dans plusieurs étapes de l'accompagnement de l'enfant placé. Ceux qui partent en foyer, il n'y a pas de cadre. Il faut savoir que dans chaque foyer à 18h, c'est ouvert. Il y a juste un veilleur de nuit, pas d'éducateur. Et c'est là que le danger survient. L'accès à la drogue est facile pour ces enfants. La prostitution est à portée de main. Les foyers le savent. Dès 11 ans, les jeunes filles sont attendues à la sortie des foyers par des voitures qui les abordent malignement, voire même menacent leur famille et créent ainsi une emprise qui les mène tout droit dans des réseaux de pédocriminalité. Cela se sait. Drogue, sexe, fugue, disparition, réapparition au foyer, reconstruction, redestruction. Ces jeunes sont livrés à des réseaux de pédophilie. Elles sont sous emprise. C'est pourtant le président du département qui est responsable de ces enfants placés. Où voit-on là l'obligation de résultat? C'est là que la question se pose. Le problème est qu'il n'y a pas de contrôle d'État. Ça ne dépend pas de lui, mais seul du département. Pourquoi parle-t-on de scandale? Tout simplement parce que le silence du gouvernement a tout intérêt de persister. L'absence de travail signifierait l'absence de l'humain. Certains éducateurs osent parler. Explique clairement l'impuissance qu'ils ont face à la prostitution des jeunes placés dans les foyers. Ils déterminent même qu'il n'y a aucun suivi médical pour ces jeunes filles violées, car la prostitution, lorsqu'elle est sous emprise et impose des relations sexuelles, ce sont des viols. Y a-t-il une réelle politique de lutte contre la pédophilie en France? Je ne le crois pas. Il a été prouvé de fait que des pédophiles ou proxénètes jugés qui ont tarifé des enfants de 11 à 14 ans pour des relations sexuelles ont été condamnés à 800 euros. Pas de prison, pas de sursis, je vous parle de 800 euros d'amende. Voilà ce que coûte le prix d'un viol sur un enfant de 11 à 14 ans en France. Autrement dit, c'est porte ouverte à la consommation des enfants. On peut rappeler quand même qu'acheter des enfants est un crime pénal appelé pédocriminalité. Il a été prouvé, démontré qu'aucun enfant ne se prostitue avant d'être placé. On pourrait alors en déduire que les fournisseurs de prostitution sont les départements eux-mêmes? C'est à eux de détecter et de signaler. Et que font-ils? Que fait la France face à ce fléau de pédophilie et de prostitution des mineurs placés? Doit-on rappeler la Convention européenne des droits de l'enfant? Pourquoi l'ASE gère-t-elle en huis clos ce genre de cas si nombreux? Pourquoi les juges ne sont pas saisis? Pourquoi la mise en place médicale n'est pas prodiguée? Pourquoi ne pas chercher une mise en place dans une famille d'accueil ou voir une famille plus élargie, aux grands-parents, chez les tantes, chez les oncles? Pour certains, la réponse est simple. Si on place l'enfant à un tiers familial responsable, il n'y a plus d'argent qui rentre à l'ASE. Les associations révèlent aussi un manque énorme de familles d'accueil et de personnes qualifiées et d'éducateurs. Par voie de conséquence, j'ai appris qu'il existait des formations de 20 mois où à terme vous pouvez avoir la fonction d'éducateur. Mais où est le travail de fond? Défendre, accompagner, protéger un enfant nécessite bien plus que 20 mois de formation. Il est difficile de défendre un enfant aux audiences. Selon les avocats, le rapport est donné souvent la veille avec au minimum 60 pages à éplucher, détailler, analyser. En audience, le destin d'une famille se joue entre 15 et 20 minutes. Lors des audiences, les avocats n'y voient là que du mépris. Où est la place de l'enfant? La lenteur des procédures condamne l'exclusion des enfants de leur propre famille. Pourquoi placer un enfant dans une famille d'accueil ou un foyer lorsqu'il a lui-même des grands-parents, des cousins, des oncles qui peuvent l'accueillir? Il existe un collectif d'avocats qui ont rédigé des réclamations et une réforme sur l'ASE. Il signale également que les éducateurs spécialisés qui dénoncent sont licenciés, alors qu'ils font leur travail et c'est eux qui sont en souffrance. Dans cette réforme, il parle des dégâts importants de la rupture familiale, de l'ampleur de la pédophilie et de la prostitution, de l'absence totale du contrôle du gouvernement et du réseau de toxicomanie. Dysfonctionnement retrouvé dans un département sur deux. Alors qui contrôle cette administration? Quand on est thérapeute, on en pense quoi? On pense qu'un enfant n'est pas un dossier, ce n'est pas un numéro et ça ne devrait pas être une généralité de violence institutionnelle. 92 mesures ont été écrites par la commission d'enquête parlementaire fournie à l'État. Cela prouve à quel point la société doit prendre conscience du problème. Comment on protège l'enfant après 18 ans, après qu'il ne soit plus pris en charge par l'État? En consultation, j'ai beaucoup d'adultes qui me racontent leur parcours. On parle de placement de foyer, de famille d'accueil, de gîtes, d'hôtels, de visites à domicile avec éducateurs. En accompagnement thérapeutique, c'est un long chemin de réparation d'enfance et d'adolescence broyée et de non-compréhension sur des enfants placés qui pourtant pouvaient être accueillis par un oncle, une tante, des grands-parents, des grands-frères qui l'avaient eux-mêmes demandé. C'est également pour les patients un combat titanesque de récupérer leurs dossiers avec parfois des informations cachées, des moments de leur vie volés. Les patients dénoncent les aveuglements de violences intrafamiliales, des viols, des humiliations, des maltraitances. Ce sont des jeunes qui se sont construits comme ils ont pu, qui sont aujourd'hui en recherche, en besoin de compréhension. Pourquoi pas de normes gouvernementales? Pourquoi pas d'encadrement? Pourquoi pas de référence d'État mais un président départemental? Pourquoi sous-estimer les enfants, leurs valeurs? Pourquoi les ruptures familiales au sens large? Pourquoi aucun accompagnement sur des plaintes pour demander justice? Pourquoi ne forme-t-on pas plus d'éducateurs? Pourquoi on ne vote pas plus de lois? Pourquoi un secrétaire chargé d'État de l'enfance? Pourquoi pas un ministre de l'enfance et de ses droits? Aucun adulte n'en sort indemne. Un accompagnement thérapeutique et pluridisciplinaire est vital pour retrouver un équilibre psychologique. Vous êtes dans ce cas victime de traumatisme, mais vous n'êtes pas seul. Poussez les portes et n'hésitez pas à demander soutien et aide. À nous, individuellement, de prendre conscience de l'atrocité que l'on inflige à de nombreux enfants. Réveillons-nous. Parlons-en, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve en podcast sur studiosef.fr. C'était Elodie Benmadi. N'oubliez pas, si on ne peut pas empêcher que les choses arrivent, nous pouvons faire en sorte qu'elles durent le moins longtemps possible. Alors on se met en action. Je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt.